La revue de presse internationale.
Retour sur Terre. Bonjour Thomas Cluzel.
Bonjour Guillaume.
Chronique de la bêtise ordinaire.
Oui, c'est l'histoire d'un journaliste du New York Times qui s'est lancé un défi complètement fou pour interroger l'impact du traitement médiatique du début de mandat de Donald Trump. Il a décidé de ne plus rien lire ou voir à son propos pendant une semaine complète, histoire de voir si un monde ou quelque chose existait en dehors des montagnes d'articles consacrés au président américain. Alors il n'a pas arrêté de s'informer, simplement il a passé davantage de temps sur les sites des médias étrangers, en particulier la BBC, et surtout il s'est concentré sur des thèmes comme par exemple la science ou Donald Trump, a priori, ne serait pas le sujet le plus traité. Et voici ses conclusions résumées par le magazine Slate. Il n'existe dans le paysage médiatique aucun endroit ou presque où l'on ne parle pas de Donald Trump. Quels que soient les sujets, les articles mentionnent le président d'une manière ou d'une autre. On y fait allusion dans les comptes rendus sur les Grammys et les Golden Globes. On le retrouve dans des spots publicitaires pour la tolérance, dans les programmes sportifs de la NBA et du Super Bowl, et même dans la série Big Bang Theory, dans laquelle le scénariste a inclus un message anti-Trump à la fin. Bref, Donald Trump est partout. Alors évidemment, par le passé, déjà, les présidents américains ont toujours bénéficié d'un traitement médiatique de grande ampleur, mais toujours selon le journaliste, il est probable qu'aucune personne vivante au cours de l'histoire n'a jamais été aussi célèbre que Trump aujourd'hui, et il en veut pour preuve les analyses de MediaQuant, une entreprise américaine qui mesure la récurrence de certains noms.
Et figurez-vous que la semaine écoulée n'échappe évidemment pas à cette règle.
Non, c'était dernier jour, tout le monde s'est demandé quels étaient les enseignements à tirer de ces 30 premiers jours sur l'Amérique de Trump. Un premier mois qualifié, c'est selon, de surréaliste, d'éprouvant, voire d'humiliant. Un spectacle affligeant, commente notamment un chroniqueur du Guardian. Comme une saison particulièrement longue, dit-il, de la série The Office avec Donald Trump dans le rôle du bouffon égocentré, convaincu d'être plus intelligent, plus drôle et plus doué que les autres. Au point que le débat fait rage désormais outre-Atlantique pour savoir si ce 45e président ne souffrirait pas d'une pathologie mentale. Depuis quelque temps, psychiatres et experts égrènent ces symptômes et livrent leur diagnostic. En décembre déjà, rappelle le Courrier international, un article du Huffington Post citait une lettre rédigée par trois éminents professeurs en psychiatrie qui, comme preuve de l'instabilité mentale de Donald Trump, citait son orgueil démesuré, son impulsivité et sa susceptibilité face aux critiques. Fin janvier, un psychologue allait encore plus loin dans un article de l'hebdomadaire US News and World Report. On pouvait lire ceci: le président souffre de narcissisme malin qui se caractérise par un sadisme et un comportement antisocial. Plus récemment, une lettre adressée au courrier des lecteurs du New York Times, signée par 35 psychiatres, psychologues et travailleurs sociaux, allait également dans ce sens. Et il n'y a d'ailleurs pas que les Américains qui s'interrogent sur la psychologie et la santé mentale de leur président. NBC nous apprend par exemple que pour aider Poutine à préparer sa première rencontre avec le nouveau leader américain, sans même que la date ne soit d'ailleurs encore fixée, un travail préparatoire très sérieux est actuellement en cours au Kremlin, notamment un papier de 7 pages établi un portrait psychologique de Trump pour cerner l'esprit et les instincts du président. Dernièrement, un député démocrate de Californie est même allé, lui, jusqu'à envisager de déposer un projet de loi afin de réclamer l'intervention d'un psychiatre à la Maison-Blanche.
Et on ne parle même pas là des mensonges proférés par Donald Trump.
Le Washington Post vient de publier une infographie à ce sujet. Après 33 jours, le journal compte 132 affirmations trompeuses, soit une jolie moyenne de 4 par jour. Quoi qu'il en soit, cette tentative de déclarer donc le président mentalement inapte à servir le pays est une erreur à bien des égards, tranche The New York Times. Pourquoi ? Tout d'abord parce que le fait qu'un président souffre d'une pathologie mentale ne veut pas dire grand-chose sur sa capacité à gouverner. Après tout, Lincoln souffrait de dépression, Roosevelt était probablement maniaco-dépressif et Grant alcoolique. Ensuite, vous pouvez souffrir d'une maladie mentale et être parfaitement compétent ou être parfaitement sain d'esprit mais incapable. Et enfin, la dernière raison pour laquelle nous devrions éviter de poser des diagnostics sauvages, c'est que cela dégage de leur responsabilité nos hommes politique. Tout cela pour dire, conclut l'article, que notre pays n'a pas besoin d'un psy pour décider si Trump est apte à servir le pays. Les présidents doivent être jugés sur leurs actions, leurs déclarations et peut-être même à présent aussi sur leurs tweets. Et nous n'avons pas besoin de spécialistes pour cela. Il suffit d'un peu de bon sens. Ensuite, il convient de rappeler que si Trump a montré toute son incompétence lors de ce premier mois de mandat, le soutien de son propre camp lui ne faiblit pas, observe le quotidien Aberturk, qu'il s'agisse de son agenda, de démantèlement du système social et de dérégulation intempestive ou de sa quête d'orientation populiste et autoritaire. Tant que ces conditions seront réunies, dit-il, le soutien des républicains d'une part et des électeurs de Trump d'autre part n'est pas prêt de faiblir, de sorte que voir les démocrates reprendre par exemple le contrôle du Sénat pour réfréner Trump est presque impossible à imaginer, estime The Los Angeles Times. Enfin, Si Trump quittait la scène, le peuple qui a voté pour lui élirait probablement un candidat comparable aux prochaines élections. Car ne nous y trompons pas, Trump est un symptôme et non la cause de la crise, souligne son confrère Yanis Afak. Ce que nous voyons à la surface n'est pas la raison, mais le résultat. Et même si Trump était destitué demain, cela ne changera rien au séisme. Car ces décisions ne sont pas le fruit d'une colère passagère, elles ont été prises par de larges pans de la population à l'issue d'un long processus de fermentation. Et d'en conclure, désormais, les notions et les arguments les plus forts du monde moderne, l'impérialisme, le capitalisme et la mondialisation, en clair, contrôler davantage, gagner davantage et englober davantage, sont en train de devenir le plus grand fléau de la société occidentale.